On parle éducation à la vie affective et sexuelle ce matin. Et pour ça, je reçois Gladys du planning familial de la Drôme.
Bonjour.
Bonjour Gladys. Tu es habitante du Royan et tu travailles au planning de Romans et de Valence.
Oui, tout à fait.
Et ton intitulé, c'est que tu es conseillère conjugale et familiale. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui peut-être ne savent pas ce que c'est qu'être conseillère conjugale et familiale, tu veux bien nous parler un peu de ton poste?
Eh ben, effectivement, ça fait un peu plus d'un an que je travaille au planning familial à Valence et à Romans, et le nom de mon travail reflète pas vraiment la réalité de mes fonctions. En gros, mon travail, il se divise en deux pôles principaux. Le premier, ça va être beaucoup les interventions collectives. Donc, interventions collectives avec des adolescents, des enfants et des adultes, mais principalement, c'est les interventions scolaires. Collège et lycée. Il peut m'arriver de travailler en école primaire, mais c'est beaucoup plus rare. Donc du coup, l'idée des interventions scolaires, c'est... Premièrement, c'est peut-être dire que le planning familial, on est une association féministe et d'éducation populaire. Et ça, c'est vraiment une identité à laquelle on est très attaché. Et c'est avec cette étiquette-là qu'on arrive dans les écoles, les collèges et les lycées. Et l'idée, c'est que pendant ces séances-là, qui durent généralement entre 1h30 et 2h, on va partir des questions des élèves. Ces questions, elles sont très vastes. Alors, elles peuvent toucher les questions de sexualité. Mais on parle aussi d'amour, on parle aussi de relations amicales, parfois familiales. On parle contraception, avortement, infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est pour l'aspect un peu...
Prévention
un peu médicale même. On parle aussi énormément de consentement et de prévention des violences. Les violences sexistes, racistes, LGBTophobes et puis évidemment les préventions des violences sexuelles. C'est un sujet qui est majeur, qui est vraiment incontournable. Alors c'est pas toujours très rigolo et en même temps... les gosses, ils ont vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Ils sont soit déjà victimes, soit en tout cas témoins. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux, à la télé, pour ceux qui regardent encore la télé, c'est quelque chose qui est vachement important. Ils ont plein de questions, ils ont plein d'opinions. Et puis, vraiment, c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup travailler ces questions-là avec les jeunes. Et pas toujours de façon anxiogène. C'est aussi parler d'émancipation, de se réapproprier son corps, ses désirs, apprendre à dire non, apprendre à pourquoi je dis non, pourquoi je dis oui, à l'entendre aussi. C'est un peu souvent la question, c'est je ne sais pas si la personne, elle me dit non, si elle me dit oui. Et du coup, ça, c'est le gros du travail en intervention collective. Et après, le deuxième aspect de mon travail, c'est les permanences d'écoute. Donc ça, c'est quand je suis au planning à Valence et à Romans, c'est les personnes qui viennent nous voir. Alors, qui vient nous voir? Officiellement, tout le monde. Les filles comme les garçons, les vieux comme les jeunes.
Dans la réalité. Toutes les classes sociales aussi.
Complètement. Alors... Toutes les classes sociales, j'ai envie de dire oui, sur le papier, enfin en tout cas, théoriquement, c'est ça qu'on veut. Évidemment, nous, on est un lieu qui propose la confidentialité, l'anonymat et également la gratuité. Et ça, c'est vraiment, c'est très très important pour les personnes les plus pauvres ou les plus précaires de pouvoir avoir accès à leur santé sexuelle de façon gratuite parce que ça peut coûter vite cher en fait. Pour être un petit peu plus précise, nous, à Valence et à Romans, on a un peu des limites d'âge parce que malheureusement, on peut pas sinon, accueillir toute la demande. Donc, pour ce qui est de l'accès à la contraception, c'est pour les personnes jusqu'à moins de 26 ans. Pour l'avortement, parce qu'on pratique les avortements médicamenteux dans les deux plannings de Valence et de Romans, tout le monde peut venir, il n'y a aucune limite d'âge et il n'y a aucune condition de ressources ou quoi que ce soit, j'insiste, tout le monde est bienvenu. Pour les infections sexuellement transmissibles, on fait les ordonnances. Normalement, c'est jusqu'à moins de 26 ans, mais franchement, un gros coup de flip, une urgence, on peut en discuter. Et après, les gens viennent nous voir, on parle un peu de santé sexuelle, donc contraception, avortement, IST. Et ensuite, les personnes peuvent aller voir nos sages-femmes ou nos médecins, on a deux médecins, pour leur consultation médicale, qui, encore une fois, j'insiste, est gratuite. Et par contre, les personnes, quel que soit donc leur genre ou leur âge, peuvent venir en pour une séance d'écoute. Alors, on dit de conseil conjugal. Mais on n'est pas obligé d'être dans une conjugalité pour venir au planning, hein, clairement pas. Et là, c'est tout âge. Et effectivement, on peut venir parler des relations amoureuses. Vous pouvez venir parler de vos ruptures. On vient beaucoup nous parler de rupture, de nous parler de vos questions sur l'identité de genre, sur l'orientation sexuelle, sur le rapport à la pornographie. J'insiste sur le fait qu'au planning familial, on est dans une écoute qui est bienveillante et non jugeante. On ne juge jamais les pratiques. Elles sont toutes OK du moment qu'elles sont consenties. D'accord ? On a également énormément de personnes qui peuvent venir nous parler de violences conjugales, sexuelles, harcèlement sexuel, on est aussi là pour écouter, on est là pour vous accueillir, vous croire et vous apporter le soutien dont vous pourriez avoir besoin. Je tiens quand même à le dire, parce que c'est pas pour les personnes mineures, quand les personnes mineures, donc de moins de 18 ans, nous font des révélations comme ça, on fait pas comme si on n'avait rien entendu, on peut être amené à prévenir les autorités compétentes, mais ça c'est pareil, c'est un travail qui se fait avec vous, toujours avec vous.
Un tour d'horizon assez complet de ce que ça veut dire être conseillère conjugale et familiale, et puis les activités du planning familial. Faut rappeler que le planning familial, c'est une association qui est assez ancienne. D'ailleurs, le premier planning familial a été créé à Grenoble,
ouais, donc, tout à fait.
Dans notre région. C'est une association qui est historiquement féministe, historiquement avec des bénévoles, et puis après ça s'est professionnalisé, et historiquement sur ces questions d'avortement et de contraception. Donc, même si c'est 50, 60, 70 ans après, on est encore dans l'héritage de cette création-là. Et voilà, ça prend des formes un peu différentes aujourd'hui, puisque la société évolue. Peut-être, si tu as un peu des anecdotes ou des choses qui se passent dans tes interventions en milieu scolaire, tu disais les jeunes ont beaucoup de questions. J'ai envie qu'on mette un peu un coup de projecteur là-dessus, parce que il y a beaucoup d'appréhension, que ce soit des professionnels de l'enseignement ou des parents, de dire on va parler de sexualité avec mon enfant, mais est-ce que c'est pas plutôt mon rôle de parent? Alors que, on le rappelle, et tu le disais, hein, on parle de sexualité de manière aussi positive, pas que du sida, pas que des infections sexuellement transmissibles, et que tout ça, ça fait partie de la vie affective, relationnelle des enfants, et que c'est important qu'il y ait des moyens pour faire ça, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de comment ça se passe avec les collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes?
Ah bah ouais, carrément. Alors, juste pour dire, je comprends l'inquiétude des parents. C'est des sujets qui sont tabous, c'est des sujets qui peuvent mettre mal à l'aise. C'est OK d'être inquiet et de se questionner. Après, on est des professionnels formés. Et bien sûr que quand j'interviens avec des CP, je raconte pas la même chose qu'avec des terminales. Et comme je te disais avant le début de cette interview, c'est que même entre deux classes de terminales, il n'y a pas les mêmes niveaux de maturité, il n'y a pas les mêmes questions. Et c'est en tout cas ce qui fait la richesse de mon boulot, c'est quand même de m'adapter à chaque fois à ces dynamiques. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. C'est vraiment très, très cool.
Et c'est en ça que c'est une association d'éducation populaire.
Ouais.
Et que l'éducation populaire, pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent peut-être pas ce terme, c'est vraiment de partir de où en sont les personnes. Et comme tu le disais, des adolescents, adolescentes, même du même âge, ne vont pas être au même endroit et avoir les mêmes préoccupations. Donc, cette adaptabilité, ce travail en formation. Et on rappelle que voilà, vous êtes des professionnels formés à tout ça, quoi.
Oui, oui, oui. Enfin, moi, je n'arrive pas avec un programme en disant « il faut que j'ai parlé de ça, de ça, de ça, de ça ». Effectivement, je suis pas là pour aller faire peur aux jeunes en disant le sexe, c'est le VIH, c'est les grossesses non désirées. Bon, après, l'idée, c'est quand même de rappeler que la contraception existe, qu'il y a l'avortement, qu'on peut faire de la prévention des infections sexuellement transmissibles, etc. Mais on parle aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses, quoi. J'essaye de réfléchir aux anecdotes. Enfin, je vais peut-être parler un peu crûment, hein, du coup, mais parce que les élèves parlent crûment aussi. Je sais pas, par exemple, quand on fait les questions anonymes. Alors, j'en fais pas toujours, mais en classe de quatrième, j'aime bien. Je vais très souvent avoir la question de la part des garçons, généralement, sur, disons, la taille du pénis. Alors, effectivement, je vous assure qu'ils ne le nomment pas comme ça, hein, c'est un peu plus cru. Et ces questions-là, elles sont censées faire rire les camarades, faire rire dans la classe, avoir un aspect un peu provocante. Et pourtant, moi, je l'adore cette question parce que c'est le moment de revenir sur la puberté déjà. C'est comment le corps y change, sur... qu'est-ce qu'on veut dire derrière cette question? C'est quoi l'inquiétude? C'est quoi le regard qu'on a sur le corps? Notamment les garçons, enfin... C'est trop chouette de parler avec les garçons des injonctions liées à leur virilité, à leur masculinité, et puis des fois de débattre avec les filles qui lèvent les yeux au ciel en disant oh là là, mais si c'était vraiment que ça le problème. Enfin, et en fait, ça crée vachement des débats super intéressants. On revient sur les émotions aussi. En fait, de quoi on a peur quand on se présente à l'autre, quand on se présente à l'autre dans la relation, mais même après plus tard si on doit être nu ou pas nu, et les peurs sur les corps. Et enfin. C'est vraiment trop chouette, très intéressant. Franchement, des fois, on rigole bien, quoi. Bon, des fois, ils me rendent fou, mais des fois, on rigole aussi, quoi.
Et c'est l'occasion de parler des stéréotypes de genre. Mmh. Comme tu disais, qu'est-ce qu'on attend des garçons, qu'est-ce qu'on attend des filles, les rapports entre eux. Et on sait à quel point c'est fondamental. Alors là, au collège, c'est une évidence avec la puberté et les changements. Mais depuis la petite enfance, finalement, comment on est conditionné et comment, des fois, on correspond ou on correspond pas à ces stéréotypes-là, et on a de l'angoisse avec ça, où on a des moqueries, de la honte, la question du corps, de la grosseur, des poils, enfin... On peut aller loin là-dessus, mais... et tu disais, tu faisais peu d'interventions en école primaire, est-ce que le planning a vocation quand même à en faire?
Alors ça, c'est la grande question... Oui, bien sûr. Alors là, je parle pas du planning de la Drôme, mais de l'ensemble des plannings de France. Auparavant, moi, je travaillais à Marseille. Les plannings peuvent proposer des interventions en milieu scolaire de primaire, donc avec, par exemple, PRODAS, qui est le programme de développement des compétences psychosociales, en gros. Hein. On fait également, moi, je fais des interventions pour prévenir les violences sexuelles faites aux enfants. Alors, quand on dit ça, effectivement, ça peut faire très, très peur parce que c'est un sujet qui fait très, très peur. Moi, j'y vais toujours avec une boule au ventre dans ces interventions-là. Sauf qu'aujourd'hui, avec le rapport de la CIVIS, dont j'ai complètement oublié l'acronyme, mais qui, en gros, était la commission...
Une cellule de veille, quoi.
Ouais, qui a travaillé ces deux dernières années, trois dernières années sur les questions d'inceste, qui ont récolté plus de 30 000 témoignages. On estime à un ou deux enfants par classe victimes de violences sexuelles. C'est énorme, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, et c'est primordial d'intervenir sur ces questions-là. Et pour faire de la prévention, mais également pour faire du repérage. Parce que malheureusement, il n'y a pas d'âge pour les violences sexuelles, on dirait un vieux slogan bien nul. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas d'âge. Et quand j'interviens auprès d'enfants de CP, de CE1, de CM2, potentiellement, il y a déjà des victimes, quoi. Donc c'est vraiment essentiel. Alors oui, en fait, la loi de 2001 dit qu'il doit y avoir 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle par classe, de la primaire jusqu'à la terminale.
Chaque année.
Chaque année. C'est la loi, c'est comme ça. Donc avec cette loi qui est là, qui est très bien, elle est parfaite la loi, n'y touchez pas, appliquez-la par contre. Et ben dans ce contexte-là, on pourrait faire de la prévention des violences et donc intervenir en primaire. Alors je rassure les parents, les professionnels, les psychanalystes et tout ça, on intervient avec... En CP, on parle des émotions. On apprend à dire oui, on apprend à dire non. On apprend à dire ça, c'est mon corps, pas le tien.
La base de la question de son espace vital,
oui,
la question du consentement, même dans des jeux, d'être touché, pas touché.
Exactement.
Comment je communique qu'en fait, j'ai pas envie, mais d'abord, il faut que j'apprenne à le repérer.
C'est ça.
Et on le voit chez des adultes après que finalement, on n'a pas appris à le faire.
On n'a pas appris à dire j'ai peur, je suis en colère, je suis triste, mais aussi je suis content. Hein. Enfin, on n'est pas que sur le négatif. Mais de dire, là, ça c'est OK pour moi, là c'est pas OK, là j'ai pas envie. Enfin, c'est vraiment des choses... De base, quoi. Alors après, en CM2, par exemple, les enfants, ils ont 10 ans. On sait qu'il y a un enfant sur deux de 10 ans qui a déjà eu accès à de la pornographie. Alors, je vais pas revenir sur le débat pour ou contre la pornographie. D'ailleurs, je le trouve nul quand il est posé dans ces termes-là. C'est bien plus complexe. En revanche, clairement, les gamins, ils ont déjà vu du porno. Et clairement, il faut pouvoir en discuter avec eux parce que ça fait effraction dans un imaginaire. Ça vient peut-être même réduire ou abîmer cet imaginaire, l'imaginaire de la séduction, de la relation à l'autre. Et plus tard de la sexualité, mais et du corps en fait aussi, hein, l'image du corps déjà. Ça on peut pas le mettre sous un tapis quoi. Et puis ils ont déjà des questions sur leur corps, sur les poils, les pertes blanches, les premières érections. C'est le matin, mais voilà, il faut. Enfin, c'est vraiment des questions qu'on a déjà avec les enfants et que et que c'est normal qu'ils aient pas toujours envie de le questionner aux parents. C'est la question de l'intimité. C'est important que les parents aient aussi leur propre intimité. C'est ok. Puis chaque dynamique familiale est différente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Enfin, s'il y a des mauvaises façons de faire, les façons violentes, clairement. Mais après, on deal avec ce qu'on est et avec nos propres cultures familiales aussi. C'est pour ça que c'est chouette d'avoir la présence de ce tiers-là. En tout cas, moi, j'interviens pas contre les parents et leur éducation. J'essaye d'intervenir en complément, quoi, je dirais.
Et on parle vraiment de complémentarité éducative entre tous les adultes qui sont un peu le maillage autour de ces jeunes, de ces enfants. Et on sait à quel point c'est important. On en parle beaucoup en ce moment, là, avec les sorties qu'il y a eu autour des Césars, de Judith Godrèche, des différents MeToo, sport, cinéma. Et il y a des choses qui éclatent aujourd'hui comme si on remettait en question un vieux monde, une manière de faire dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports de violence, dans les violences de genre, dans les violences sexistes et dans les violences sexuelles. Et que moi, j'ai souvent envie de dire de quel monde on veut, de quoi on a envie, en fait, dans les relations entre les personnes. Et c'est vrai que qu'est-ce que ce serait un monde où on aurait eu, depuis la petite enfance, des interventions. Alors, comme tu le disais très justement, la loi le prévoit, mais les moyens ne sont pas là en face, quoi. Je me demandais, est-ce qu'au planning, vous avez des revendications régulièrement, là c'est plus en termes politiques, quoi, mais de dire, en fait, cette loi est là, et donnez-nous les moyens d'intervenir, quoi, les moyens humains.
Mais carrément, donc, le planning familial, pour reprendre rapidement, on a notre confédération nationale. Alors là, je parle avec les mains pour m'expliquer, hein, désolé, mais...
C'est pas très radiophonique, mais...
c'est ça. Ouais, on a vraiment donc la confédération au niveau national, et c'est là également que il y a tous mes collègues qui font du plaidoyer, c'est-à-dire que ils travaillent avec les politiques pour faire valoir nos revendications. Et on a de très fortes revendications depuis longtemps. Moi, des fois, j'ai cette image de pédaler dans la semoule pour y arriver, de faire appliquer la loi sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est enfin, on travaille sur énormément de questions liées aux sexualités, liées au féminisme, liées, j'ai envie de dire, aux luttes intersectionnelles. Alors, c'est pas un gros mot, même s'il est un peu compliqué, mais au planning, on est attaché aussi à considérer l'ensemble des oppressions. Je sais pas, on parlait de la pornographie, par exemple, on en parle des fois avec les élèves la pornographie, ça donne une image sexiste, mais également ça favorise les stéréotypes racistes, par exemple, avec l'hypersexualisation des femmes racisées. Et ça, c'est des choses qui sont chouettes à discuter, et même avec des élèves de lycée, ils ont des choses à dire et ils ont déjà vécu aussi des choses. Hein. Moi, j'ai déjà des gamines qui parfois pleurent parce qu'elles sont trop grosses ou parce que elles sont trop noires. J'ai déjà eu des gamines qui m'ont dit ça ou parce qu'elles se trouvent moches. Des garçons qui me disent nous, on peut pas envoyer de photos de nous parce que nous, on est moches, les garçons. Enfin, ils sont traversés de plein de choses. Hein. Franchement, des fois, je suis très très émue de ce qu'on arrive à discuter ensemble.
Et comment finalement ça atteint l'estime de soi de ces jeunes-là, et comment tout le travail qui est fait par vos associations et les professionnels de ces disciplines-là, c'est pour travailler avant tout sur l'estime de soi et qu'on soit des personnes qui vont bien.
Ouais, c'est ça.
Dans la société dans laquelle on est.
Il y a déjà énormément de violence dans les rapports entre les jeunes. Hein. Il y a beaucoup de sexisme, de racisme, d'homophobie. Il y a des propos très très homophobes. Alors attention, je lance pas la pierre aux gamins. Ça m'agace toujours un peu ce discours. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tranquille. Hein, les réseaux sociaux, c'est aussi ceux des parents. C'est aussi ceux des adultes, des médias. Voilà, je pense à des médias très 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 forts en particulier. D'ailleurs, un média qui a parlé de l'avortement comme la première cause de mortalité dans le monde. Je me calme parce que ça m'énerve. Mais
il y a encore beaucoup d'homophobie et de sexisme et de violence dans les propos, évidemment, et aussi des enseignants.
C'est ça, c'est pour ça que c'est chouette d'en parler en collectif, quoi. Alors, de rappeler que, encore une fois, l'homophobie, le sexisme et le racisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits, ça c'est non négociable. Après, ok, c'est quoi qui fait peur? Qu'est-ce qui nous trouble?
Qu'est-ce qui peut déranger ou...
Ouais, qu'est-ce qu'on peut mettre en discussion avec bienveillance et respect de toutes les personnes pour arriver à aller mettre un peu le point sur... c'est souvent sur ce qui fait peur, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est vachement important aussi.
Et du coup, ça m'amène à te demander comment vous travaillez avec les équipes éducatives. Est-ce que le planning des interventions auprès des enseignants, enseignantes, sachant que ce sont des adultes qui véhiculent, elles et eux aussi, désolé de le dire, des stéréotypes, voire même de la violence.
Alors, on ne fait pas de formation avec l'éducation nationale, au sein de l'éducation nationale, c'est un peu fermé. Alors par contre, je te rejoins sur le fait qu'il y a des enseignants et des professeurs qui peuvent être problématiques, je te rejoins complètement. Par contre, je vois aussi, moi, au cours de mes interventions, de plus en plus d'enseignants qui sont très attachés à se former sur ces questions-là. Et ça, c'est vraiment chouette. Sachant que les enseignants se forment souvent aussi sur leurs congés, etc. Donc on a quand même ces deux... Et je parle encore avec les mains. Voilà. C'est deux choses qui se rencontrent, quoi. Oui, encore des enseignants. En fait, les enseignants, c'est comme le reste de la population. Il y a des gros réacs, mais aussi il y a des personnes ultra motivées. Et c'est grâce à ces personnes ultra motivées qu'on arrive à intervenir. Hein. Parce que sinon, c'est pas facile de rentrer dans tous les collèges et les lycées.
Mais c'est vraiment des postures proactives de la part de ces professionnels de l'éducation et en général sur ces questions-là. En fait, si on laisse faire le tapis roulant habituel, alors on va vivre, on va renforcer et vivre des questions de sexisme, de racisme, d'homophobie. Sauf si on prend à contre-pied ce truc-là c'est et ça. Qu'on est proactif. Et c'est pour ça aussi que souvent on nous taxe d'être un peu virulente ou disons comment dire engagée. Mais en fait, c'est qu'il y a vraiment du travail à faire.
Oui, et puis en fait, faut quand même pas oublier le planning familial, on subit de très nombreuses attaques, hein, surtout sur notre aile très très à droite, on va dire. Attendez, je fais attention à mes mots, parce que le planning familial est donc une association qui bénéficie de subventions et on veut continuer à toucher nos subventions, s'il vous plaît.
Pour continuer à travailler.
Pour continuer à travailler, à faire de l'éducation, à accueillir les personnes qui ont besoin d'avorter, d'avoir la contraception et tout. Mais oui, on subit de nombreuses attaques et du coup, on prend énormément d'énergie à se défendre. Et c'est ok, hein. De toute façon, si on nous attaque, c'est bien parce qu'on fait du bon travail. Sinon, personne nous écouterait, puis on parlerait pas de nous. Mais
c'est qu'il y a une menace, quoi.
Ah bah, c'est nous la menace. On vous voit, on est là. Hein. Mais c'est ok, hein, très bien. Mais effectivement, oui, on est engagé. Oui, notre travail, il est politique. Oui, il est. Je crois pas qu'il soit virulent. Je pense que ce qui est virulent, c'est ce qui se passe en face, c'est les violences faites aux enfants, c'est l'inceste, c'est les viols, c'est ça, c'est virulent, quoi. Nous on est juste en mode défense, quoi, et puis on recueille énormément de paroles de victimes aussi qui viennent nous voir, quoi.
Et donc peut-être il y avait une date qui était importante. Tu parlais d'avortement. Il me semble que là on est autour du 28 février, du mercredi 28 février, et il y a quelque chose au niveau politique qui se passe.
C'est la constitutionnalisation de l'IVG. Là j'ai un grand sourire parce que j'ai dit le mot correctement d'un
Bravo.
Seul trait.
C'est passé.
Alors l'idée c'est d'inscrire l'IVG, donc l'avortement, dans la Constitution, ce qui pourrait permettre de garantir en fait aux personnes avec un utérus, d'avoir accès à ce droit fondamental. Alors, la petite attention que nous on a au planning, c'est la façon dont va être inscrit ce droit. C'est justement, si c'est le droit à l'IVG qui est inscrit dans la Constitution, alors l'État français doit garantir le fait qu'on y ait accès sur notre territoire. Si c'est seulement la liberté d'avorter, bah c'est en gros, t'as le droit d'aller à l'étranger ou te démerder, mais c'est pas l'État qui nous le garantit. Donc là, il y a quand même une petite nuance. En tout cas, déjà, rien que le fait que l'IVG soit inscrit dans la Constitution, ça serait une grande avancée. Et moi, j'avoue, un petit peu un soulagement, parce que quand je regarde ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, ça fait extrêmement peur. Et contrairement à ce que certains vieux bonhommes pourraient nous faire croire, l'IVG est toujours, toujours en danger. Les droits des femmes, les droits des personnes minorisées sont toujours en danger, notamment dans les périodes de crise. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est de Simone Beauvoir. J'ai eu un doute sur quelle Simone l'a dit. Mais c'est... Ouais, c'est vraiment... c'est primordial et puis c'est aussi un symbole fort. Alors après, quand ce sera inscrit dans la Constitution, et si ça l'est, ce sera chouette, je rappelle qu'il faut le garantir sur place, ce droit-là, et c'est-à-dire partout. C'est-à-dire qu'il faut réouvrir les maternités, il faut permettre aux professionnels de santé de pouvoir exercer leurs fonctions dans les bonnes conditions. Il faut ne pas avoir que des personnes qui refusent de pratiquer l'IVG dans les rares maternités encore ouvertes. Il faut filer des thunes au planning familial. Il faut garantir l'accès aux médicaments qui permettent d'avorter. Il faut former les sages-femmes, les anesthésistes, enfin...
Il s'agit de moyens matériels, économiques et humains, parce qu'il suffit pas. Alors, tu faisais bien la distinction entre droit et liberté. Le droit permettrait que, si on est très concret, qu'il y ait les moyens pour que ce soit fait. Et la liberté, ce serait, ok, on a le droit de le faire, enfin, on a la liberté de le faire, mais par contre, on se débrouille, quoi.
Ouais, et là, on sait très bien, en fait, si t'as de l'argent, tu pourras aller avorter en Espagne. Si t'en as pas, bah, tant pis pour toi. D'ailleurs, petite note, au planning familial, il nous arrive souvent d'accompagner des personnes qui veulent avorter, mais qui ont malheureusement dépassé le délai légal en France. Et donc, du coup, bah, on les aide à prendre des rendez-vous en Espagne, aux Pays-Bas. Et alors, normalement, en Angleterre, mais avec le Brexit, ça nous a fait un peu compliqué, mais là, ça s'arrange. Et on a de nombreuses caisses de solidarité. Arrêté, IVG, délai dépassé. Ça, c'est au bon vouloir des particuliers de nous permettre à aider, en fait, à toutes les femmes, encore une fois, à disposer de leur corps et à pouvoir avorter un peu plus tard que ce qu'on nous permet en France, quoi.
Peut-être tu peux rappeler juste le délai ?
Ouais, carrément. Alors, c'est 14 semaines de grossesse et donc 16 semaines d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est toute la période où on n'a pas eu ses règles. Voilà. Premier jour des dernières règles. Ça, c'est ce que je le précise, c'est toujours un peu compliqué. On comprend rien quand on tombe enceinte, on se mélange entre les deux dates. Pas de panique, on est là pour vous aider.
Et de toute façon, si vous avez des questions, si ça vous fait peur, si vous comprenez rien à ce qui se passe pour vous, rien ou en tout cas vous avez besoin d'en parler, c'est là que vous pouvez vous orienter vers le planning familial.
Ouais, du coup j'en profite si c'est ok de placer le numéro vert. Donc effectivement venir au planning familial, c'est pas toujours facile, notamment dans le Royan, on va pas se mentir, on est complètement paumé. Donc deux choses l'une ou d'une chose les deux. J'ai ma collègue Anaïs qui va reprendre un jour dans le centre de santé sexuelle qui est à Saint-Laurent à la maison de santé. Alors je sais pas quand et je sais pas quels vont être ses horaires, mais bientôt il y aura une nouvelle conseillère conjugale et familiale à Saint-Jean-en-Royans, donc c'est chouette, vous pourrez aller la voir directement. Nous, on est ouvert à Romans tous les mercredis et les vendredis, à Valence lundi, mardi, mercredi. Et puis quand c'est compliqué parfois de se déplacer ou parce qu'on n'a pas envie de voir la tête des gens pour poser des questions sur notre intimité, vous pouvez appeler le 0800 08 11 11, 0800 08 11 11, du lundi au samedi de 9h à 20h. C'est un numéro qui est gratuit et anonyme et c'est des conseillères comme moi qui répondons à toutes vos questions. Principalement, c'est l'avortement et la contraception, mais on peut également parler de sexualité et de relations. Voilà, c'est gratuit et anonyme.
C'est bien de faire un coup de projecteur aussi sur notre territoire, Royan-Vercors. Quid de la question de la ruralité, effectivement, sur la question de des dépassements de délais, de questions. Donc on voit bien qu'il y a cette ligne téléphonique. Est-ce que vous avez des actions spécifiques dans le Royan-Vercors ?
Alors, on intervient à la MGEN, du coup, auprès des personnes en situation de handicap, où on fait des séances pareilles pour discuter de vie sexuelle, affective et relationnelle, car ces questions, encore une fois, elles concernent absolument tout le monde, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition physique, psychique, etc. On intervient aussi à la chapelle en Vercors, au collège. Et puis, il me semble que c'est à peu près tout.
Et toi, t'aurais des volontés que ça se développe plus ici, sur le territoire ?
Ça me ferait moins de route pour aller travailler, ça c'est sûr.
Au-delà de ça.
Il y a quand même ma collègue Anaïs, du coup, qui elle travaille pour le département, qui met quand même pas mal d'actions déjà en place, il me semble, aussi avec le collège de Saint-Jean. Mais après, c'est toujours finalement une question de moyens aussi.
Il y aurait de quoi faire, en tout cas, sur les territoires ruraux.
Clairement.
Et il y a d'autres projets qui sont pas ceux du planning, mais que tu portes et qui sont liés à notre territoire. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, carrément. Alors, à titre individuel, je sais pas si on dit ça comme ça, j'ai monté une bibliothèque féministe mobile. Il faut pas que je le dise comme ça, parce que ça fait BFM, ça me plaît pas. Qui s'appelle la Crapulothèque. Et du coup, la Crapulothèque, l'idée, c'est que j'ai beaucoup de BD et de livres jeunesse et que je peux me déplacer sur différents événements. Alors, féministe ou pas féministe, l'idée, c'est de porter la bonne parole, on va dire. Pour proposer un petit coin de chill, un coin où... des fois, on peut venir se poser avec les enfants, on peut venir se poser pour lire une BD quand on en a trop marre du monde autour de soi, pour discuter aussi des différents ouvrages que j'ai pu trouver. Donc voilà, vous pouvez me joindre sur Insta, la Crapulothèque, un truc comme ça. Voilà. Et à côté de ça, il y a encore un autre projet, donc qui vient tout juste de se monter, on vient de déposer les statuts avec les copaines, qui s'appelle La Mèche. Et donc La Mèche, on est une association qui, pour le moment, a surtout pour vocation d'aller dans les milieux festifs et de convivialité. Alors on insiste sur convivialité parce que c'est pas que les endroits où on fait la grosse fête, ça peut être les marchés par exemple, les voilà, les petits moments un peu sympas. Pour avoir un stand, d'une part de RDR, c'est-à-dire de réduction des risques liés aux consommations, par exemple d'alcool, de drogue, de son, par exemple proposer des bouchons pour les oreilles, des éthylotests. Et également, ce stand pourrait permettre de lutter contre les violences sexistes, sexuelles, homophobes, etc. dans ces milieux de convivialité. Donc c'est faire un peu de prévention, proposer plein de choses. Et également, bah, effectivement, des temps d'écoute. D'échanges, de discussions, on est en train de monter des petits jeux, ce genre de choses.
Oui, j'allais dire, il y a un stand et puis après il y a des petites activités ou en tout cas juste des personnes disponibles si on vit un moment qui n'est pas agréable dans cette soirée, que ce soit sur la question du sexisme mais sur autre chose, comme un peu ces anges gardiens à qui on pourrait venir parler dans la soirée, quoi.
C'est ça, alors l'image un peu religieuse, tu vois. Mais non, ouais, c'est ça. Alors l'idée, c'est que bah, les organisatrices nous appellent et en fait, on voit aussi en fonction des besoins et des différentes modalités qu'on peut proposer. Et du coup, vous pouvez nous écrire à La Mèche, donc la-du-6 Mèche, M-E-C-H-E, @riseup.net. Voilà, on vient juste de commencer, mais on est motivé.
Vous aurez l'occasion de réentendre parler soit de la crapulothèque, soit du planning, soit de La Mèche sur les ondes de Radio Royan-Vercors. Gladys, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais rajouter?
Moi, je crois que j'ai juste envie de dire à tout le monde que vous êtes les bienvenus au planning familial et de ne pas... Enfin, que toutes vos questions sont légitimes, que toutes vos interrogations, vos craintes, vos peurs ou même vos délires sont OK et que vous avez le droit de venir en parler si vous en ressentez le besoin, vous êtes les bienvenus. Donc, voilà.
Ben, merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Royan et
merci.
Bonne suite.